Merci aussi, le Rabbi Goldstein, pour son hospitalité et l'hospitalité de ce lieu. Enfin, pour moi, c'est très important aussi d'exposer ce que j'ai tenté d'articuler dans ce livre, dans un lieu d'étude comme celui-là. Oui, ma démarche, au fond, dans ce livre en tout cas, ma démarche, c'est la tentative un peu folle, en tout cas un peu risquée, de tenter de surmonter l'opposition entre le commentaire sous sa forme traditionnelle et ce qu'on appelle l'approche historico-critique, qui en général s'oppose de manière très très rude. Bon, alors je précise bien, on en avait discuté un peu au téléphone, bon, je précise bien qu'il ne s'agit pas pour moi de dire que le moment serait venu d'abandonner l'étude. Hein, l'étude des textes de notre tradition est constitutive d'identité juive. Bon, pas d'identité juive sans étude, c'est une chose qui est absolument claire. Simplement, ce que je me proposais en écrivant ce livre, c'est, j'irais, d'élargir le commentaire traditionnel en le confrontant à d'autres sources, des sources extérieures à la Torah. Ce que j'appelle ouvrir l'archive. Ou l'ouvrir à quoi? L'ouvrir à d'autres textes, parfois plus anciens, venant d'autres traditions. Hein, donc, pour préparer ce livre, je me suis intéressé un peu à ce qu'était la religion et la politique égyptienne, et aussi la mythologie cananéenne ou celle de Babylone. Bon, il y a toute une archive là extrêmement intéressante. Et aussi l'ouvrir à autre chose que des textes, à savoir à l'archéologie. Parce que l'archéologie a un intérêt très remarquable. C'est qu'elle permet de prouver de manière incontestable que quelque chose a eu lieu. Que quelque chose n'a pas eu lieu, c'est moins évident. Mais que quelque chose a eu lieu, bon, ça, l'archéologie en donne des preuves incontestables. Et elle permet même de le dater. Je donne un exemple très simple. Il y a des historiens, je vais en reparler bientôt, les historiens qu'on appelle les minimalistes, qui disent qu'au fond, bon, Abraham, Moïse, David, Salomon, tout ça, c'est des fictions, des légendes, etc. Et notamment, bon, s'agissant du roi David, bon, ça fait partie de ces personnages totalement légendaires, inventés très tardivement par les rédacteurs de la Torah. Or, bon, les archéologues ont découvert, il y a une vingtaine d'années, une stèle rédigée par un roi araméen de laquelle il se vante d'avoir détruit l'armée de la maison de David, donc de la dynastie de David. Bon, une stèle du 9e siècle avant l'ère commune. Donc voilà une preuve archéologique irréfutable qu'existait une maison de David, une dynastie de David. Voilà. Bon, c'est comme ça, je veux dire. Donc je pense que c'est important aussi de se confronter à cela. Alors, pourquoi? Parce que ça nous paraît peut-être d'y voir plus clair sur le référent historique, sur la réalité historique de ce dont parlent les récits de la Torah. C'est un peu ce que Sigmund Freud appelle le noyau de vérité des écritures bibliques. Et il dit, pour lui, il y a à la fois un noyau de vérité, donc ça renvoie à des événements réels qui ont effectivement eu lieu, mais ce noyau de vérité a été déformé en partie, partiellement déformé, lorsqu'il était retranscrit quelques siècles plus tard. Et donc il dit, bon, c'est à la fois une vérité et une non-vérité. Il dit ça dans son livre Testament, L'homme Moïse et la religion monothéiste, un livre qu'il a publié quelques semaines même, avant sa mort en 1939, et qui est, bon, on en discutera peut-être, c'est la démarche de Freud me semble très intéressante, c'est-à-dire affirmer qu'il y a un événement réel à la base de tout cela, à la base de l'histoire de Moïse, et que cet événement, néanmoins, a été retranscrit de manière partiellement déformée. Ça dit, lorsque Freud tente de dire de quel événement il s'agit, là, à mon avis, excuse-moi d'être si immodeste, mais là, je pense que Freud se trompe profondément. Il manque l'événement dont il s'agit. Il invente une histoire abracadabrante de meurtre de Moïse par son peuple. Bon, il fait de Moïse un disciple du pharaon Akhenaton. Bon, je pense que là-dessus, Freud a tout faux, mais la méthode est intéressante. Donc, essayer de saisir à la fois le noyau de vérité en l'arrachant à la déformation qui est venue par la suite l'affecter. Bon, pourquoi chercher un noyau de vérité? Je dirais parce qu'il faudrait éviter ce que j'appellerais le repli herméneutique. Quelqu'un de très honorable qui est Paul Ricoeur disait que ce qu'il appelle la Bible, donc la Torah et les évangiles, doivent être lus comme un poème. On entend ça très souvent chez les gens qui se réclament d'herméneutique ou de la psychanalyse. Et même parmi nous, quand j'ai présenté mon livre, là, d'une discussion à un cercle proche de la grande synagogue de Strasbourg, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi vous cherchez à savoir si ça s'est réellement passé? Ce qui compte, c'est le sens que portent les récits, c'est de ça dont on peut discuter. Oui, le sens importe, mais c'est important aussi de savoir si ça renvoie à quelque chose de réel. Alors, doit-on lire la Torah comme un poème ? Oui, il y a des passages mythiques, il y a des passages poétiques. Chez Rachirim, le chant des chants, c'est un poème, sans aucun doute. Les récits de Bereshit ont la saveur des grands mythes d'origine qu'on trouve dans différentes traditions religieuses. Alors là, oui, on peut sans doute les lire comme des poèmes. Mais lorsqu'il s'agit de Shemot, lorsqu'il s'agit de Bamidbar, de Devarim, etc., bon, Exode, Nombre, Deutéronome, lorsqu'il s'agit de différents récits du livre des Juges ou du livre de Samuel, ça nous confronte quand même à des personnages. Ce sont des récits historiques qui mettent en scène des personnages présentés non pas comme des fictions, mais comme des hommes réels, de chair et de sang, à qui il arrive quelque chose et qui font quelque chose. Par parenthèse, bon, on peut en dire aussi autant du récit des Évangiles. Bon. Donc je pense qu'il faut éviter les pièges que sont, par exemple, la très ancienne lecture qui remonte à l'Antiquité, à Philon d'Alexandrie notamment, la lecture allégorique. Hein, beaucoup de philosophes ont cru, depuis l'Antiquité, qu'au fond, il fallait interpréter les récits de la Torah comme des allégories spirituelles. Et ça, en tout ça, c'est très très important dans la tradition chrétienne. Hein, pour les chrétiens, effectivement, l'esclavage en Égypte, c'est l'esclavage de l'âme soumise au péché. La sortie d'Égypte, c'est la rédemption. La traversée du désert, c'est la marche vers le royaume de Dieu, etc. Non, non. Hein, moi, je pense que c'est pas une bonne manière d'aborder les choses. Parce que la Torah ne présente pas ça comme des allégories, elle présente cela comme des événements réels. Elle présente l'Égypte comme une contrée réelle, avec un despote appelé le Pharaon. Elle présente les Hébreux comme des asservis ou des esclaves. Et elle présente Moïse comme quelqu'un qui vient les libérer de ce despote et qui les conduit à travers un désert réel vers une terre réelle, la terre de Canaan, qu'on peut situer sur une carte. Bon, donc là, je suis très réservé sur la méthode allégorique, qui est une manière d'éviter de se confronter à la réalité des récits. Et le repli herméneutique consistant à les considérer comme des poèmes, comme des belles histoires, enfin des histoires riches de sens, mais dont on n'a pas se posé la question de la réalité ou du référent historique, ça me paraît la même manière d'esquiver la confrontation avec la réalité. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer d'ouvrir l'archive, hein, de se confronter à chercher des traces de ce qui a eu lieu. Alors ouvrir l'archive... Aussi, bon, comme je disais, ça implique non seulement de se confronter à l'archéologie, mais ça implique aussi de s'intéresser à des textes antérieurs à la Torah, hein, qui appartiennent à tout le background, à toute cette région du Moyen-Orient antique. Donc, je me suis un petit peu frotté au mythe égyptien, à la mythologie cananéenne, donc on sait peu de choses, mais on commence à savoir certaines choses, ou à la mythologie babylonienne, enfin mésopotamienne. Et ça permet d'éclairer certaines questions qui autrement resteraient assez obscures. Pourquoi cela ? Eh bien parce que plus j'ai étudié ces textes plus anciens que la Torah, plus il m'a semblé qu'on avait affaire dans la Torah non pas à des mythes d'origine, mais à des contre-mythes, c'est-à-dire à des relectures subversives de certains mythes antérieurs. Non pas simplement à des récits historiques, mais à des contre-récits ou à une contre-histoire qui prennent appui sur toute une série d'éléments antérieurs pour les subvertir. Hein, pour les détourner dans un autre sens. Et ça a permis d'éclairer toute une série de questions qu'on peut juger obscures. J'en donne un ou deux exemples. Bon, un exemple très connu, l'épisode du veau d'or dans Shemot. Bon, c'est quand même difficile de comprendre pourquoi Hachem rentre dans une telle colère lorsqu'il voit les Hébreux faire une image de lui sous la forme d'un veau, un veau d'or, parce que c'est bien lui qu'il s'agit d'adorer. Il dit, Israël, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, dit Aaron, en présentant le veau d'or au peuple. Donc on a l'impression que Hachem se met en colère contre sa propre image. Hein, les Hébreux ne sont pas en train d'adorer un autre Dieu, ils sont en train d'adorer une image de leur Dieu. Donc d'où vient cet interdit de représentation, cet interdit d'idolâtrie ? C'est une question qui reste quand même assez obscure, assez énigmatique. Et là, je veux dire que j'ai eu une sorte de choc. Lorsqu'on étudie un petit peu les rituels religieux de l'Égypte, je me suis aperçu que le terme « veau d'or », le veau d'or, était un attribut du pharaon. C'est ainsi que les Égyptiens désignaient le pharaon. Pourquoi ? Parce que l'or, pour eux, est la chair des dieux, comme ils disent, la chair du soleil des dieux, et parce que le pharaon est présenté comme un taureau conquérant, comme figure aussi de virilité, et comme descendant d'une grande vache céleste. Le taureau est adoré aussi sous des formes animal, enfin dans le bœuf apis, bon, c'est des animaux sacrés de la religion égyptienne. Donc le veau d'or est une image du pharaon. On peut le penser aussi. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, ça permet de resituer, je dirais politiquement, le récit du veau d'or dans toute une série de récits qu'on trouve dans Exode ou dans Nombre, etc., qui mettent l'accent sur la nostalgie de l'Égypte, sur le désir de revenir dans la servitude de l'Égypte qui traverse les Hébreux lors de leur parcours à travers le désert, lorsqu'ils se révoltent contre Moshe, contre Moïse, en disant « mais non, mais ça suffit, qu'est-ce qu'on était bien en Égypte, est-ce qu'on avait des marmites pleines de viande, ramène-nous vers l'Égypte, ce pays où coule le lait et le miel ». Ça, c'est textuellement dans Bamidbar. Donc, ils confondent la terre promise et la terre de servitude. Et ils ont un désir de retomber sous l'esclavage, de retomber dans l'asservissement. Et donc, c'est tout à fait logique à ce moment-là que ces hommes qui ont la nostalgie de leur servitude, lorsqu'ils ont à se représenter leur dieu, en font une idole, une idole pharaonique. Ça, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Mais ça éclaire d'une certaine façon le sens de ce récit de manière nouvelle. Et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Bon, j'entends encore un autre, s'agissant de ce que j'appelle les contre-mythes. Bon, y a un passage qui a fait gloser énormément dans... Bon, beaucoup aussi les exégètes chrétiens. Enfin, quand Elohim dit que « faisons l'homme à notre image et ressemblance » au début de Bereshit. Qu'est-ce que c'est que un homme, enfin l'homme, nous tous? En quoi serions-nous à l'image d'Elohim? Un Elohim qui, en plus, ne doit être adoré sous aucune forme visible, sous aucune image. C'est pas clair. Il y a d'innombrables glosses des commentateurs chrétiens, notamment sur est-ce que l'image, c'est la même chose que la ressemblance, etc. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, là encore, si on se confronte à la politique et à la mythologie égyptienne, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a un homme qui est l'image du Dieu suprême, et son fils aussi, et c'est le pharaon. Dans la mythologie politique ou dans la politique mythologique de l'Égypte, le pharaon est le fils du dieu suprême, du dieu Ra, du dieu solaire, et il a été créé à l'image de son père. Et donc du coup, on peut relire le texte de Bereshit de manière très intéressante. Ce n'est pas un seul homme, le roi, le tyran, le monarque, qui est à l'image du dieu suprême, c'est tous les hommes, c'est Adam, et donc tous les hommes, nous tous, qui sommes également... Hein, les enfants de ce Dieu et qui avons été créés à son image. Donc c'est une reprise subversive. Ça pourrait être, ce sont des hypothèses, hein, ça pourrait être une reprise subversive d'un mythe politique égyptien qui transforme le privilège absolu accordé au roi en une déclaration en faveur de l'égalité universelle. Vous voyez, il y a donc des reprises subversives d'anciens mythes et d'anciennes traditions. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Si on a le temps dans la discussion, ben je vous montrerai que ça peut permettre d'éclairer aussi, d'une certaine manière, un des récits les plus énigmatiques et les plus obscurs et étranges de toute la Torah, qui est le récit de la Hakeda d'Isaac. Il y a là quelque chose de très, très étrange. Pourquoi ce Dieu, bon, qui a investi Abraham d'une promesse de multiplier sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, le sable de la mer, lui demande de tuer son fils unique? Il y a là quelque chose de très étrange. Quand même. Et les philosophes, jusqu'à tout récemment, jusqu'à Lévinas et Derrida, il y avait Kierkegaard auparavant, et Kant et Hegel, c'est une chose qui a vraiment fait travailler beaucoup de commentateurs dans la tradition juive, et aussi dans le christianisme et dans la philosophie. Si on rapporte ça à un mythe cananéen, là c'est pas un mythe égyptien, c'est un mythe cananéen qui dit que le dieu roi de Canaan, un roi divinisé appelé El, oui, c'était le nom du dieu suprême des Cananéens, avait sacrifié son fils unique pour préserver son royaume. Donc il y a un vieux mythe sacrificiel là, attribué à El. Bon, c'est le même nom que le singulier d'Elohim, qui sacrifie son fils unique. Et donc on peut se demander si le récit de la Hakeda d'Isaac n'est pas une reprise subversive, une reprise transformatrice de ce vieux mythe royal cananéen. On sait que les rois cananéens avaient, la Torah en parle, les rois cananéens avaient de temps en temps la coutume de sacrifier leur fils pour gagner une bataille, etc. Et c'était reproché aussi par les prophètes à certains des mauvais rois d'Israël. On peut demander, bon, cette ancienne tradition du sacrifice royal destinée à renforcer et à sacraliser la monarchie n'a pas été reprise de manière subversive pour célébrer un dieu qui interdit le sacrifice. Voilà, c'est, bon, c'est deux petits exemples parmi d'autres, enfin deux gros exemples parmi d'autres de ce que peut apporter ce que j'appelle l'ouverture de l'archive. Elle permet de proposer de nouvelles hypothèses qui élargissent, qui enrichissent, qui compliquent les commentaires traditionnels. Alors bon, j'en viens maintenant au noyau dur, c'est à la recherche de la vérité historique. Bon, que s'est-il réellement passé ? Est-ce que le récit de l'Exode a un fond de réalité, oui ou non ? Ou est-ce que c'est une pure construction légendaire, une sorte de poème, etc. ? Alors l'ennui, c'est que dès qu'on commence à se poser ce genre de questions, on est obligé de se confronter aux historiens, à ceux qui développent l'approche, aux biblistes, comme on dit, ceux qui développent l'approche dite historico-critique. Et là, on a très vite une déconvenue, c'est que la tendance dominante, mais dominante de manière écrasante aujourd'hui, c'est la tendance qu'on appelle minimaliste. Autrefois, les historiens étaient maximalistes, ils pensaient que tout ce que raconte la Torah s'est réellement passé. Et donc, chaque fois qu'on découvrait la momie d'un pharaon quelque part, aussitôt on lui ouvrait les poumons pour savoir s'il y avait de l'eau dans ses poumons, pour savoir si c'était le pharaon de l'Exode qui s'est noyé dans la mer des joncs. Bon. Mais ça, c'est fini. L'époque des maximalistes est terminée depuis déjà un certain temps. Hein, ceux qui ont le vent en poupe sont des historiens qu'on appelle minimalistes. C'est-à-dire des gens qui considèrent que, au fond, la Torah est un ensemble de récits légendaires, écrits tardivement, avec des constructions rétrospectives, je vais en dire quelques mots de cette stratégie d'écriture-là, et que donc, il n'y a rien de vrai là-dedans, ou très peu de choses. C'est des récits qui dateraient de la fin de l'époque des rois, ou de l'exil à Babylone, je vais y revenir, parce que j'ai donné à cet exposé le titre provocateur « Moïse à Babylone ». Et donc, certains, il y a même des minimalistes vraiment très radicaux, extrémistes, un peu extravagants même, qui disent que non, la Torah a pris sa forme définitive à l'époque hellénistique, à l'époque des Maccabées, donc très très tard, quoi. Bon. Et donc ce serait un ensemble de fake news, pour dire brutalement les choses. Des beaux récits, des constructions légendaires, qui auraient été élaborées tardivement au service de telle ou telle politique, la politique du roi réformateur Josias, ou la politique d'exil, mais je vais y revenir, des exils de Babylone, etc., etc. Et ça, c'est la tendance dominante aujourd'hui. Alors c'est sûr que, si on regarde de près les arguments, au début je voulais ignorer ces gens-là. Quand on sent ce livre, je me dis, des gens que vous connaissez, Finkelstein et Zilberman, les deux archéologues israéliens, auteurs de la Bible dévoilée, Unhurted Bible, ou Thomas Römer, professeur au Collège de France, c'est tout à fait intéressant, ou un historien italien remarquable, Mario Liverani, je vous renvoie à son livre, La Bible, l'invention de l'histoire. Au début, en commençant mon travail, je m'étais dit, je ne les lirai pas, voilà. C'est pas cachère, je ne lirai pas ça. Je dis non, c'est pas possible. Leur discours est dominant. Leur discours est dominant. Hein, ils passent aujourd'hui, si j'ose dire, pour parole d'évangile. Donc il faut quand même se confronter à ces gens-là et essayer de voir sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. C'est-à-dire voir ce que nous apprend vraiment l'histoire et l'archéologie pour voir si leur manière de dire que tout ça n'est que légende est fondée, oui ou non. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans ce genre d'investigation, on est face à une grosse difficulté, une difficulté vraiment massive. Concernant la fiabilité, je dirais, du récit de l'Exode. Bon, d'abord, les sources égyptiennes n'en parlent pas. Le départ de 600 000 ou 700 000 asservis hébreux, plus leurs femmes, plus leurs enfants, etc., donc de plusieurs millions de personnes, dans un pays qui devait au grand maximum être peuplé de 8 ou 9 millions ou 10 millions de personnes, ça aurait quand même laissé des traces. C'est comme si aujourd'hui, 7 millions de personnes quittaient tout à coup la France pour partir ailleurs. Il y aurait des traces dans les archives. Or, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. On a beau chercher, on n'en trouve pas. Il y a des archives égyptiennes qui décrivent l'évasion d'une dizaine de captifs, d'une dizaine d'esclaves qui s'enfuient à travers le Sinaï. Et là, il y a une sorte de commissaire de police qui donne des ordres à ses subordonnés, envoie une patrouille pour essayer de les rattraper. Le départ d'une dizaine d'esclaves laisse des traces dans les archives égyptiennes. Le départ de plus d'un million d'asservis hébreux ne laisse aucune trace. Là, il y a un gros problème. À cela s'ajoute quelque chose d'encore plus délicat, d'encore plus lourd, qui m'a inquiété beaucoup au début. C'est que l'histoire nous apprend, et ça c'est incontestable, que durant une longue période, durant 4 ou 5 siècles, le pays de Canaan était une colonie égyptienne. Entre le milieu du XVIe siècle, chrétienne, avant l'ère commune, et environ le milieu du XIIe siècle, donc dans la période où, en général, on situe historiquement l'Exode, beaucoup de gens disent le pharaon d'Exode, c'est Ramsès II, Hollywood a repris ça aussi. Bon, pourquoi Ramsès II? Parce que c'est le plus connu des pharaons, peut-être. Freud disait non, c'est pas lui, c'est Akhenaton, donc un siècle plus tôt, au moins 14e siècle. Bon, dans cette période-là. Or, à cette période-là, à la période où traditionnellement on situe le récit de l'Exode, le problème, c'est que Canaan était une colonie égyptienne. Voilà. Et ça, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Bon, comme je l'ai dit dans le livre, c'est l'argument de Jean Valjean, si vous voulez. Imaginez que le bon Jean Valjean, le forçat dont parle Hugo dans Les Misérables, ait réussi à briser ses chaînes et à s'enfuir du bagne de Toulon avec une poignée d'autres forçats, et qu'à travers un long exode, à travers, je ne sais pas moi, l'Espagne, la Méditerranée, etc., le contraire du chemin que suivent tellement de migrants aujourd'hui, qu'ils amènent à se noyer ou être jetés à la mer. Bon. En suivant donc ce chemin à l'envers, en traversant, mettons, l'Espagne et le Maghreb, il serait arrivé enfin en terre promise, avec les siens, en Algérie française. Voilà. Ça va pas. Ça va pas. Si Canaan est une colonie égyptienne, Canaan ne peut pas être la terre de liberté vers laquelle Moïse conduit son peuple. Il y a là une contradiction. Alors, on pourrait dire, peut-être, que l'Exode aurait eu lieu après la fin de la domination égyptienne sur Canaan, donc tardivement vers le 11e, 10e siècle. Peut-être, il n'y a toujours aucune trace de cela, hein, mais on pourrait l'imaginer. Mais là, en sorte, il y a une autre difficulté, c'est qu'on a des traces écrites, des traces égyptiennes écrites, mentionnant l'existence d'un peuple appelé Israël aux environs du 13e siècle, déjà. Vers moins 1210, une stèle du pharaon Meremptah mentionne une série d'ennemis qui ont été écrasés, qui ont été anéantis par l'armée du pharaon en Canaan. C'est donc une révolte qui a eu lieu en Canaan et qui a été écrasée dans le sang par les colonisateurs égyptiens. Et parmi ces peuples vaincus, il y a la mention d'Israël. Donc il y avait déjà une communauté appelée Israël au XIIIe siècle, qui était donc une communauté vivant dans cette colonie égyptienne qui était Canaan. Alors ça, bon, ce sont des faits incontestables. C'est-à-dire, les historiens l'ont établi et on ne peut pas le contester. C'est des vérités de type scientifique, on ne peut pas le nier. Donc ça pose une série de problèmes très, très redoutables. Vous voyez, donc on est confronté à un double silence, à un double blanc, si vous voulez. Du côté des archives égyptiennes, aucune trace d'un exode massif d'asservis hébreux qui se serait enfui vers Canaan. Du côté de la Torah, aucune trace de l'occupation égyptienne de Canaan, qui a duré pourtant 4 ou 5 siècles et qui a été particulièrement féroce. Féroce et prédatrice. Bon. Alors, que faire avec ça? C'est un petit peu la question que je m'étais posée. Alors, à partir de là, bon, c'est à partir de ce genre d'argument que les historiens minimalistes dont j'ai parlé ont essayé de développer leur conception, à mon avis, fausse, hein, de l'Exode comme une simple légende. Hein, ce qu'on trouve chez Liverani, chez Remer, etc. J'ai beaucoup de respect, hein, pour ces gens, ce sont des historiens très sérieux. Bon, le livre de Thomas Remer, L'invention de Dieu, c'est un très beau travail, je trouve. Enfin, bon, mais Liverani aussi, c'est très intéressant. Et Finkelstein et Zilberman ont fait des travaux archéologiques de très, très grande envergure aussi. Bon. Mais alors, l'hypothèse qu'ils développent, c'est l'hypothèse d'une construction rétrospective. C'est-à-dire, la Torah ayant été écrite tardivement, à la fin de l'époque des rois, durant l'exil à Babylone, donc au VIe siècle, ou un peu plus tard, après le retour des exilés, les rédacteurs de la Torah auraient composé ces récits en fonction des exigences de l'époque, des exigences du moment. Par exemple, certains des récits auraient été composés pour soutenir l'activité réformatrice du roi Josias. Bon, laissons Josias de côté. Laissons l'autre côté. Revenons aux exils à Babylone, puisque c'est un petit peu l'objet de cette conférence et de ce séminaire, en fait, hein, la politique de l'exil. Bon, je crois que c'est Liverani qui expose ça de la manière la plus précise, la plus claire dans la Bible, l'invention de l'histoire. Il dit, bon, en gros, ceci, il dit, bon, les Judéens, les habitants du royaume de Juda, enfin, en tout cas leur élite, leurs prophètes, leurs princes, leurs prêtres, leurs scribes, leurs notables, ont été déportés à Babylone. Donc ils vivent dans la souffrance d'un exil. Et donc, à ce moment-là, ils décident de construire la fiction d'un autre exil antérieur, hein, d'un exil en Égypte, dont ils auraient été libérés, hein, par un libérateur auquel ils donnent tout à coup le nom de Moïse, pour patients-là. Bon, laissons ça de côté. En tout cas, voilà. Donc, c'est une manière qu'auraient eu les exilés de Babylone de retrouver de l'espérance, donc de fonder ce qu'on pourrait appeler une stratégie de résistance. Une stratégie de résistance pour redonner de l'espoir aux exilés, leur dire, voyez, notre exil n'est pas le premier, c'est un second exil qui vient répéter un exil beaucoup plus ancien qui aurait eu lieu en Égypte, où notre peuple, les ancêtres de notre peuple, les Hébreux, auraient été exilés en Égypte, et ils auraient été libérés de l'exil et de l'esclavage, de l'asservissement par un prophète libérateur appelé Moïse, qui les aurait ramenés en terre promise, qui les aurait ramenés dans leur pays. Et donc on voit très bien comment ça s'inscrit dans ce qui est l'objet du séminaire, la politique de l'exil. Donc la conclusion s'impose. Puisqu'il y a eu un premier Moïse qui a réussi à mettre fin à ce premier exil en Égypte, nous pouvons attendre la venue d'un second Moïse, d'un nouveau libérateur, qui viendra mettre fin à ce second exil en nous ramenant en Judée. Samarie était déjà disparue. En nous ramenant en Judée, en nous ramenant vers Jérusalem. Voilà. Donc l'histoire de l'Exode serait une construction, et une construction rétrospective. Rétrospective au sens où elle aurait été projetée dans un passé légendaire, dans un passé mythique, au service d'une intention politique présente. Rendre espoir, rendre confiance au peuple des exilés de Babylone. Bon. C'est très cohérent, c'est intéressant. C'est là que m'est venue l'idée, quand vous m'avez demandé un titre, Alexandre, je me suis dit, tiens, un titre un peu provocateur, Moïse à Babylone. C'est donc l'hypothèse sur laquelle l'histoire de Moïse et de l'Exode aurait été rédigée, ou du moins repris sa forme définitive, durant l'exil à Babylone, pour offrir aux Judéens exilés la perspective d'un nouvel Exode, qui pourrait l'interprétation de leur sort comme un nouvel exil, et donc la perspective d'un nouvel exode qui les ramènerait à Jérusalem sous la conduite d'un second Moïse. Voilà, ça c'est en gros la position de Liberani et des auteurs qui se réclament de cette approche minimaliste. C'est intéressant. Donc ce serait une forme de... une expression de la politique de l'exil. Bon, question. Est-ce que ça suffit pour rendre compte... Ça va aller ? Est-ce que ça suffit pour rendre compte de la réalité historique du récit de Shemot, du récit de l'Exode ? C'est une vraie question, une vraie question. Si on suit les arguments des minimalistes, il n'y a rien de vrai, rien de réel là-dedans. C'est une pure construction rétrospective. Mais c'est très gênant parce que ils font comme si il y avait une unique stratégie d'écriture qui opérait lorsque des gens ont inventé la Torah, ont rédigé la Torah, qui est justement ce que Römer appelle une rétroprojection. Donc on invente un récit qui serait situé dans un très lointain passé pour interpréter la situation présente. Mais on peut voir ça de manière un petit peu différente. On peut se demander s'il y a une autre stratégie d'écriture n'est pas aussi à l'œuvre, qui reprendrait des éléments réels d'une époque passée pour les réactiver en fonction des événements présents. Et ça, les minimalistes refusent absolument de l'envisager. Bon, par exemple, Liberani, il parle du fait que les récits de la Torah décrivent, après l'Exode, la société des Hébreux de l'époque comme étant une société sans roi et sans État. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait, dans le livre des juges, dans le premier Samuel, avant la consécration, avant l'onction du roi Shaoul, du roi Saül. Alors Liberani écrit ceci, « Conçue en grande partie pendant une phase réelle de déstructuration politique, la Torah est projetée en arrière dans le temps, dans une autre phase, imaginaire, où la structuration n'est pas encore réalisée. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, les exils de Babylone ont été privés d'État, puisque Nabucodonosor a anéanti la monarchie judéenne, a détruit leur État. Et donc, comme ils vivent dans un monde sans État, ils auraient projeté cette situation présente dans un lointain passé imaginaire en créant la fiction d'une époque où Israël ne connaissait pas de roi. Toute la période qui va de l'entrée en Canaan jusqu'à l'onction de Shaoul. Environ deux ou trois siècles. Enfin, voilà, la société dont parle le livre des juges, le premier livre de Samuel. Bon, mais d'où vient cette espèce d'obsession dogmatique selon laquelle tout ce que raconte la Torah serait une construction introspective. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se demander s'il n'y a pas le souvenir d'une époque ancienne, une époque où Israël ne connaissait pas d'État et n'avait pas de roi, qui aurait été oublié et refoulé pendant plusieurs siècles sous la monarchie, et qui aurait été réactivé lorsque les Judéens ont été confrontés à une situation analogue. Vous voyez, l'histoire nous montre d'ailleurs, enfin les recherches archéologiques nous montrent qu'il y avait des États, il y avait des cités-États en Canaan depuis une lointaine antiquité, puis qu'à un moment donné, au XIIe siècle, elles se sont toutes effondrées, elles ont toutes été brûlées, etc. Il y a une sorte de grand effondrement qui affecte d'ailleurs l'ensemble de la région, hein, y compris la Syrie, l'Empire hittite, même la Grèce et l'Égypte, etc. Il y a un effondrement de l'ancien système. Et effectivement, bon, on n'a pas de trace archéologique de l'existence d'un État centralisé entre le XIe et le IXe siècle, en gros, avant l'ère chrétienne. Donc pendant environ 2 ou 3 siècles, le pays de Canaan, qui avait été structuré par des cités-États vassales du Pharaon, pendant 2 ou 3 siècles, c'est un monde sans État. Bon, un monde sans État, c'est-à-dire aussi sans trace écrite, sans grand vestige archéologique. Donc il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose qui a engendré une société sans État. Après, la monarchie a été établie ou rétablie, restaurée avec Saoul et David. Et puis bon, le souvenir de cette époque sans État est un petit peu rejeté dans le passé. Et effectivement, quelques siècles plus tard, lorsque les Judéens sont trouvés à Babylone, ayant perdu leur temple, leur roi, leur État, leur patrie, ça a rappelé, ça a ravivé, ça a, comme je le dis, réactivé le souvenir de cette époque ancienne où il n'y avait pas de roi en Israël. Donc, non pas seulement construction rétrospective, mais aussi réactivation d'événements passés. Vous voyez, la recherche de ce que j'appelle les noyaux de vérité historique de la Torah permet de compliquer un petit peu les choses et d'éviter cette manière un peu simpliste qu'ont les minimalistes de dire tout ça c'est des fake news, hein, c'est des projections dans le passé d'événements contemporains. Non. Hein, il y a aussi certainement des tentatives pour les exilés de Babylone de comprendre leur situation en se remémorant, en se rappelant des souvenirs d'événements passés. Et donc on ne peut pas effacer comme ça d'un simple geste la réalité de ce que raconte la Torah. Voilà, ça c'est un peu mon objection face à la tendance dominante, à celle des minimalistes. Et d'ailleurs, bon, ça pose toute une série de problèmes. S'il est nécessaire de réactiver ces éléments, c'est que ça suppose que pendant un certain temps, ils ont été oubliés ou refoulés. Pourquoi ? Et en étant réactivés, est-ce qu'ils ont été rappelés tels qu'ils se sont vraiment passés ? Est-ce que cette réactivation est possible sans une certaine déformation ? Vous voyez, on retrouve un petit peu toutes les questions que je m'étais posées au départ. Donc si on admet qu'il n'y a pas seulement des constructions introspectives, comme le disent Römer, Liverani et tous ces gens-là, mais qu'il y a aussi réactivation de souvenirs d'événements passés, on rebute de nouveau sur la question initiale dont j'étais parti, que s'est-il vraiment passé ? Que s'est-il passé dont le récit de la Torah nous donne une version peut-être légèrement déformée ou transposée, mais néanmoins, bon, issue d'événements réels. Alors bon, là, arrivé à ce point-là, je me suis dit, bon, ok, il faut regarder du côté des historiens, des archéologues, voir ce qu'ils nous apprennent sur ce qui s'est passé dans le Canaan de la fin de l'âge du bronze, donc vers le 12e, 11e siècle, c'est-à-dire au moment où l'occupation égyptienne de Canaan prend fin, où les armées égyptiennes se retirent de Canaan. Que se passe-t-il ? Ben, cela, je l'ai évoqué tout à l'heure, les cités-états de Canaan brûlent les unes après les autres. Hein, toutes ces grandes cités, Hatzor, Megiddo, Gezer et quelques autres, bon, on a des traces archéologiques qui sont des traces d'un incendie. Alors autrefois, les archéologues disaient, oui, bon, c'est clair, c'est les archéologues maximalistes qui cherchaient à prouver la vérité littérale de tout ce que dit la Torah, a dit, oui, ben voilà, c'est l'armée de Josué qui est rentrée, et en rentrant, elle a brûlé Hatzor, etc. Bon, c'est dit dans le livre de Josué. Discutable, discutable. Parce que si on regarde plus précisément ce qui s'est passé, bon, prenons le cas de Hatzor, une ville qui se situe dans le nord de la Galilée, et qui est présentée dans la Torah comme vraiment une ville très importante, une capitale de cette région. Il y a des archéologues israéliens qui ont fait des fouilles à Hatzor. Ils se sont aperçus qu'effectivement, aux environs du XIe siècle, à peu près, la ville a été brûlée, mais pas toute la ville. le Grand Temple, le Palais Royal et les maisons des notables et des riches propriétaires. Tout le reste de la ville est resté intact. Et aux murailles de la ville, on ne trouve pas de flèches, on ne trouve pas de squelettes ou de lances. Donc la ville n'a pas été attaquée par une armée venant du dehors. Que ce soit l'armée de Josué ou que ce soit ce que les historiens appellent les peuples de la mer. Hein, ces peuples comme les Philistins qui ont commencé à envahir la région, cette région à cette époque-là, en venant de Chypre, de Crète, de la Grèce, on ne sait pas trop. Parce qu'il y a eu effectivement une invasion de certains peuples. Mais non, si ça avait été le cas, si la ville avait été prise d'assaut par une armée venant du dehors, on aurait trouvé des traces de squelettes près des murailles, des lances, des flèches. On n'en trouve pas. Donc, conclusion, et bon, si on regarde le Grand Temple, on voit que ce temple a été désacralisé avant d'être incendié. Les statues des dieux et des rois ont été renversées, décapitées, et le nom d'un pharaon a été martelé sur un sphinx. Conclusion de cette archéologue israélienne, bah donc on n'a pas affaire à l'invasion, à l'entrée d'une armée extérieure, que ce soit celle de Josué ou de quelqu'un d'autre. Non, on a affaire à une révolution. Le peuple de Hatzor s'est insurgé contre son roi et aussi peut-être contre la domination égyptienne. On ne sait pas si les Égyptiens étaient encore présents dans la région à ce moment-là, mais bon, peu importe. Hein, et en s'insurgeant contre le roi, ils ont aussi renversé les statues des dieux. Donc on a affaire à une révolution à la fois politique ou sociale et religieuse. Quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qui s'est passé, bah, par exemple, lorsque les sans-culottes ont décapité les statues des rois qui ont trouvé sur le portail Notre-Dame de Paris. Voilà. Je ne veux pas m'apesantir, mais les fouilles qui ont été entreprises à Megiddo, qui était aussi une très importante cité cananéenne, prouvent la même chose. Là encore, c'est la partie de la ville qui était réservée aux nobles et aux rois, cette partie-là et cette partie-là seulement, qui était incendiée. Intéressant. Alors, si on remonte un petit peu dans le passé, là, ce que je viens d'écrire là, situé aux environs du 11e, 12e siècle, si on remonte d'environ deux siècles, au 14e siècle, alors là, on a des traces très, très, très précises d'un soulèvement. Hein? Un soulèvement, bon, ça, c'est des lettres qui ont été envoyées par les petits rois de Canaan, le roi de Jérusalem, le roi de Byblos, le roi de Sidon, hein, le roi de Lachish, bon, etc. Ils se plaignent à leur suzerain, à leur seigneur et maître, qui est le pharaon. En l'occurrence, il s'agit du pharaon Akhenaton, un premier monothéiste de l'histoire. Et ils demandent au pharaon d'intervenir parce qu'ils sont menacés par une insurrection conduite par des gens qu'ils appellent Habirou. Les Habirou, bon, ça c'est un terme qui désignait les rebelles, les hors-la-loi, des marginaux, etc. Ont soulevé les paysans, ils ont soulevé les serviteurs, et donc ils se retournent contre les maîtres, ils prennent d'assaut les villes, ils brûlent tout, et comme dit une de ces lettres, ils tuent les rois comme des chiens. Ils tuent les rois comme des chiens. Et donc ces petits rois qui étaient des vassaux du pharaon appellent le pharaon à l'aide. Le pharaon ne bougera pas. Donc on a des traces d'une insurrection conduite par ces Habirou. Bien. Alors ça, c'est des choses, bon, je suis désolé de vous le dire, mais c'est partie des blancs de la Torah. C'est partie des choses qui ont été soit oubliées, soit refoulées par ceux qui ont rédigé la Torah 6 ou 7 siècles plus tard. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Il y a donc eu quelque chose comme des révoltes populaires menées par des éléments déclassés appelés les Habirou, qui n'étaient pas une ethnie, qui étaient plutôt des marginaux, etc., qui ont pris d'assaut les cités, ont tué les rois comme des chiens, et un ou deux siècles plus tard, bon, ça a fini par conduire par la disparition totale du royaume cananéen, des cités cananéennes, et bon, après, on a une période sans État, sans roi, etc., jusqu'à l'apparition de la monarchie aux environs du 9e siècle. Voilà un élément historique fort intéressant. Il s'est donc produit quelque chose qu'on pourrait appeler, que je propose d'appeler dans mon livre, une révolution israélite. Voilà. Puisque Israël existait déjà comme une peuplade ou un groupe ou une communauté. J'ai mis quelques hypothèses en appuyant sur l'archéologie. Hein. Il y avait quelque chose qui s'appelait Israël et qui... existait déjà. Et cette révolution, oui, c'est important. Cette insurrection a été conduite par des Habirou. Alors là, il y a toute une littérature sur ce terme Habirou, d'où vient-il? Bon, il n'est pas très éloigné de Ivrit. Hein, les Habirou sont peut-être les ancêtres ou un des noms possibles de ce qui est devenir les Hébreux. C'est contesté par beaucoup d'historiens, c'est accepté par d'autres. Là-dessus, il y a un débat entre spécialistes. Il y a quand même une proximité entre les deux. Ça enverrait une vieille racine sémitique qui signifie traverser. Hein, traverser la rivière, la frontière, le fleuve, c'est-à-dire aussi transgresser. Donc le Abiru, c'est à la fois quelqu'un qui vient d'ailleurs, et c'est aussi quelqu'un qui est un révolté, un rebelle. Donc on peut esquisser l'hypothèse, j'ai pas inventé, c'est une hypothèse qui a été formulée déjà il y a plus de 50 ans par des historiens américains, l'hypothèse d'une révolution israélite conduite par ces Abiru, qui aurait renversé les cités-états de Canaan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y avait une maison de servitude qui opprimait le peuple, et que cette maison, et que le peuple a réussi à s'arracher à cette maison, à sortir de cette maison de servitude, pour entrer dans une terre promise, une terre sans roi, sans état, sans injustice, sans oppression. Alors, est-ce que ça signifie que la Torah a menti? Parce que quand j'avais exposé ça dans ma propre choule, la communauté libérale de Strasbourg, là, c'était un soir de Shavuot, donc on faisait l'étude, donc, et puis ils m'ont donné d'exposer un peu mes recherches, le livre n'était pas encore écrit, alors j'ai exposé un petit peu cette hypothèse, puis je vois encore une dame devant moi qui dit, mais alors si c'est vrai ce que vous dites, alors la Torah nous a menti? Je dis, non, au contraire, la Torah dit la vérité. Il y avait effectivement un peuple d'asservi, dans une maison de servitude, dominée par le pharaon, et bon, ce peuple a réussi à briser ses chaînes, à se libérer de l'oppression et à entrer dans une terre nouvelle, dans un pays de liberté et d'égalité, dans un pays sans roi, sans état et sans domination. Simplement, il y a, comme dit Freud, une Einstellung, une déformation, c'est-à-dire une certaine transposition. Ce qui était en fait un déplacement temporel, le passage d'une société asservie, injuste, inégalitaire, à une société plus juste, plus libre. Ce déplacement temporel a été transposé sous la forme d'un déplacement spatial, d'une migration de l'Égypte vers Canaan. En fait, la maison de servitude, elle était déjà en Canaan. C'était le Canaan occupé par les Égyptiens, asservi par eux et par les petits rois qui étaient les despotes à leur service, qui étaient leurs vassaux. Et l'exode, la sortie de la maison de servitude a vraiment eu lieu. Mais il a eu lieu, mais comme la maison de servitude était en Canaan, cet exode a eu lieu en Canaan. C'est la transition à une terre promise qui est la même terre, mais libérée de l'oppression. Il suffit donc de remplacer le déplacement spatial par un déplacement temporel, et le récit de l'exode trouve une vérité, à mon avis, tout à fait intéressante, tout à fait éclairante. Donc tout est vrai, mais tout est légèrement transposé. Mais alors du coup, Moïse, Adam, pourquoi, si vraiment il y a eu quelque chose comme cela, s'il y a eu vraiment cette révolution, pourquoi ne pas imaginer qu'elle était conduite par quelqu'un à qui on pourrait donner le nom de Moïse? Qu'est-ce qui nous interdit? D'autant plus que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette révolution sociale a été aussi une révolution religieuse, puisque les insurgés de Hatzor, et ça, l'archéologie donne des preuves de cela, ont commencé par désacraliser le grand temple, par renverser, décapiter les statues des dieux, des dieux de Canaan, El, Baal, Ashtaroth, etc. Bon, et par boucher les entrées du temple. Donc c'est une révolution à la fois politique et religieuse. Qu'est-ce qui nous interdit de penser que cette révolution dans sa dimension religieuse n'a pas été conduite par un homme appelé ou surnommé Moïse, qui aurait introduit le culte d'un dieu nouveau, d'un dieu qui n'apparaît pas dans les légendes de Canaan, qui n'apparaît pas dans la mythologie cananéenne, donc un dieu qui vient d'ailleurs, Bon, dans des passages à Torah où il dit Hachem, quand tu es venu de Séir, quand tu es venu des plaines d'Édom, au début du chant de Déborah, par exemple, donc c'est un dieu qui vient d'ailleurs, qui vient du pays de Madian, de Séir, au nord de l'Arabie actuelle ou au sud-est de la Jordanie, un dieu étranger qui aurait été introduite par quelqu'un, et qui aurait présenté ce dieu comme un dieu libérateur. Parce que ce qui caractérise l'ancienne mythologie, l'ancienne religion de Canaan, comme la religion égyptienne, comme la religion mésopotamienne, comme toutes les religions de l'Antiquité, ce sont des religions qui sacralisent le pouvoir du roi, qui font du roi le fils du dieu suprême, et son image, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et qui justifient l'ordre hiérarchique, l'ordre injuste du monde, en disant que cet ordre est conforme à la volonté des dieux. Or, c'est exactement le contraire que fait le dieu dont Moïse est le porte-parole. C'est un dieu qui brise les chaînes des asservis. Un dieu qui arrache le pauvre de son ordure et élève les humiliés, comme il est dit dans le chant de Hannah. Bon. Et donc ce Dieu, lorsqu'il se présente au début des 10 paroles, il ne se présente pas du tout comme un Dieu père, comme un Dieu roi. Il ne se présente même pas comme le créateur du monde. Il se présente comme le libérateur. Hein ? Je suis Hachem, ton Elohim, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Hein, c'est le Dieu qui se définit par le fait qu'il ait libéré un peuple de la servitude. Et donc, les pièces du puzzle commençaient à s'agencer, si vous voulez. Je dis, bon, ok, cette révolution politique s'est doublée d'une révolution religieuse consistant à renverser les dieux qui justifient l'oppression et à les remplacer par un dieu venu d'ailleurs, présenté comme le libérateur des opprimés, celui qui entend la plainte des asservis, qui gémissent du fond de la servitude et qui répond à leur appel en leur envoyant un libérateur. Toutes les révolutions religieuses ont été l'œuvre, dans toute l'histoire, d'un homme ou d'un petit groupe d'hommes, une personnalité charismatique qui a réussi à rassembler des adeptes en les arrachant à l'ancienne religion. Ce sera plus tard le cas du Bouddha dans le nord de l'Inde, ce sera le cas de Paul de Tarse, le véritable fondateur du christianisme, ce sera le cas de Mohammed, de Mahomet, fondateur de l'islam. C'était déjà auparavant le cas sans doute de Zarathoustra, le fondateur de la religion perse. Bon, à chaque fois, on a affaire à un homme qui intervient, qui, par son charisme, réussit à fonder une nouvelle croyance. Pourquoi refuser d'appeler cet homme Moïse ? Et donc, bon, voilà, à l'arrivée de ce trajet, j'en viens donc à affirmer la vérité de ce que raconte la Torah. Le récit de l'Exode est vrai. Les minimalistes trompent. On peut démontrer la vérité de la Torah en s'appuyant sur les données de l'histoire et de l'archéologie. Simplement, bon, il faut admettre que le récit n'est pas totalement exact, qu'il a dû traverser toute une série de transpositions et de déformations qui l'ont légèrement altéré. Bon, alors, je vois que je passe vite à ma seconde partie. En quoi c'est intéressant ? Ben, si vous voulez, cette hypothèse-là est intéressante parce qu'elle permet de comprendre toute une série d'aspects très singuliers de la Torah. Le fait que c'est la seule religion connue de l'Antiquité, peut-être même la seule religion connue de toutes celles que l'on connaît, qui se fonde sur le récit de l'émancipation d'une masse d'esclaves, d'une masse d'asservis, et dont les principaux éléments, là je renvoie au thème de l'alliance, la bérite, c'est une alliance qui implique une liberté, une égalité des hommes qui contractent l'alliance avec leur Dieu. C'est une alliance, si on regarde les textes qui en parlent dans Devarim, c'est une alliance qui implique non seulement les hommes d'Israël, mais aussi, dit le texte, vos femmes, vos enfants, et également l'étranger, le guer, l'immigré, celui qui réside dans ton camp, celui qui coupe ton bois, qui puise ton eau. Donc c'est une alliance qui est offerte à l'ensemble du peuple, non seulement aux hommes du peuple, mais aussi aux femmes, ce qui est très novateur pour l'Antiquité, et également aux immigrés, aux guérim, à l'étranger qui réside parmi vous. Et donc ce n'est pas une alliance ethnique. Ce n'est pas une alliance qui renverrait uniquement à un peuple homogène, mais c'est une alliance qui s'ouvre aux étrangers qui résident parmi nous. N'opprime pas l'étranger. Traite-le comme ceux qui sont d'ici. Aime-le comme toi-même, car vous aussi vous avez été étranger au pays d'Égypte. C'est dans Vaïkra, dans Lévitique. On a envie de rappeler ça aux personnes qui aujourd'hui, en France et dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, multiplient les vexations et les humiliations et les discriminations envers les migrants qui traversent dans un exode douloureux les mers et les déserts pour venir vivre une vie meilleure et plus libre. Bon, là, l'exigence, l'impératif d'hospitalité qui est porté par la Torah garde toute sa force, me semble-t-il, aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Je dis ça parce que je suis absolument révolté par la nouvelle loi qui vient d'être votée dans des conditions très étranges par le Parlement français. Mais il y a des choses analogues au Danemark, en Angleterre. Trump, s'il est réélu, va aussitôt faire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Non, l'étranger, nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Il doit être comme ceux qui sont d'ici, car nous avons été étrangers au pays d'Égypte. C'est-à-dire que nous venons de ces esclaves asservis. qui étaient étrangers dans leur propre pays et qui ont su briser leur chaîne. Et là, il y a un impératif d'hospitalité qui est porté par la Torah et auquel je pense qu'il faut accorder une grande importance. Parenthèse, bon, mon prochain livre s'intitule « Inhospitalité ». J'ai mis en exergue ce passage du Lévitique de Vayikra à la deuxième page du livre pour qu'on se rappelle un petit peu cela. Ça vaut aussi pour les impieuses du côté chrétien, n'est-ce pas, hein, qui oublient un petit peu vite ce que leur Dieu leur a dit. Et qui, bon, passons. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Alors, puisque, bon, donc là, ce qui est en jeu ici, c'est effectivement bon, l'objet de ce séminaire, à savoir bon, la politique de l'exil. Qu'est-ce qui a conduit les exilés de Babylone à réactiver ces événements réels qui s'étaient pas, d'une libération qui avait eu lieu dans le passé, en leur donnant la forme un peu déformée d'une migration, d'un exode spatial de l'Égypte à Canaan? Ben, là, maintenant, la réponse devient lumineuse. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure, parce que les exilés de Babylone étaient en exil. Et donc, ce souvenir très ancien de ce que j'appelle la révolution israélite, ils l'ont réinterprété d'une autre manière hein, pour le faire cadrer avec leur situation de l'époque, la situation d'exilés qui rêvaient de revenir dans leur patrie. Et donc, ils ont réinterprété cette histoire qui avait été en partie oubliée et certainement refoulée, profondément refoulée à l'époque des rois, hein, parce que bon... Comment des scribes qui travaillaient au service des rois d'Israël et de Juda auraient pu retranscrire telle quelle l'histoire d'une époque où on tuait, où des rebelles tuaient les rois comme des chiens? Non, donc cette histoire a dû certainement être refoulée, rejetée dans le passé, durant toute l'époque des rois. Mais bon, au moment de l'exil à Babylone, il y a une sorte de retour du refoulé, comme dirait Freud. Il y a une sorte de retour à cette histoire ancienne qui réapparaît, mais auquel on donne une forme un peu différente, pour nourrir l'espoir d'un nouvel exode qui ramènerait les exilés dans leur patrie. Bon, je vois qu'il me reste une petite dizaine de minutes pour conclure. Ouais. Je veux dire simplement que cette politique de l'exil, telle que je tente de la décrire ici, hein, qui a consisté, donc, si vous suivez bien mon hypothèse, à retrouver des souvenirs oubliés, refoulés, d'une insurrection du passé, en les réinterprétant d'une perspective différente, hein, celle d'un nouvel exode qui serait conduit par un second Moïse. Eh bien, cette politique de l'exil elle s'est appuyée, me semble-t-il, sur deux innovations tout à fait remarquables, hein, qui ont apporté quelque chose de fondamental au judaïsme, et aussi, bon, sans doute aussi, à toute l'humanité. Hein, pour faire vite, je dirais que c'est d'un côté l'affirmation d'un monothéisme exclusif, et deuxièmement, l'apparition de la figure du Messie. Est-ce que, dans la période précédente, hein, les Hébreux, puis les habitants des royaumes d'Israël et de Juda, pratiquaient un monothéisme exclusif? Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Hein, la question est encore ouverte. Il y a toute une série de témoignages qui montrent que, bon, dans les rédacteurs de la Torah les accusent de servir d'autres dieux, de croire à la reine du ciel, à Baal et à Astarté. On a des témoignages sur le fait que le roi Josias, dans le livre des rois, fait sortir du temple de Jérusalem, du temple de Salomon, la figure d'une déesse, d'une déesse qui était donc l'épouse de Hachem, hein, ou peut-être un arbre sacré qui la représente, et la fait brûler. Donc il n'est pas certain du tout que les Judéens d'avant l'exil pratiquaient un monothéisme exclusif. Et de fait, bon, on trouve très peu d'affirmations claires hein, d'un monothéisme exclusif disant il n'y a qu'un seul Dieu et tous les autres sont des faux dieux. On trouve très peu sous cette forme-là, ni dans Shemot, ni dans Bamidbar, ni dans Devarim. Un petit peu dans Devarim, il y a un passage où c'est dit clairement, c'est peut-être une interpolation ultérieure. Moi, mon hypothèse, l'hypothèse que je vous propose hein, pour en discuter, c'est que sous sa forme la plus exclusive, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, les autres sont des faux dieux. Hein, prend sa forme, prend sa force hein, au moment de l'exil. Pourquoi cela? Ben, pour une raison très précise. C'est que, mettons-nous dans la tête de ces Judéens exilés à Babylone. Ils avaient foi dans le Dieu de leur peuple, hein, qui avait promis à David et à Salomon qu'ils auraient un empire qui s'étendra jusqu'aux confins de la terre, etc. Que jamais ils qui passaient avec eux une alliance pour toujours, etc., etc., eh bien, ces royaumes ont été anéantis. Non seulement ils ne sont pas devenus un immense empire, mais les deux royaumes, Israël d'abord, puis Juda par la suite, ont été tous les deux brisés par les Assyriens, par les Babyloniens. Donc ce Dieu apparaît comme un Dieu faible, un Dieu assez impuissant. Face à quoi ? Ben, face au Dieu des Assyriens et maintenant des Babyloniens, notamment du grand Dieu de Babylone, le Dieu Marduk, hein, qui tendait à devenir un Dieu unique, d'ailleurs, en absorbant en lui toute une série d'autres dieux. Mais bon, c'est une question que je laisse de côté, on pourra peut-être en discuter. Il y a différents types de monothéisme, et les Babyloniens étaient déjà en marche vers un certain type de monothéisme. Et donc, bon, comment riposter à cela ? Hein, comment répondre à cette angoisse qui devait saisir les exilés de Babylone, dans le fait que leur dieu les avait laissés tomber, en quelque sorte, avait laissé Nabucodonosor détruire la ville et le temple et exiler les prêtres et les prophètes. Et donc, bon, pourquoi ne pas se courber devant les dieux de Babylone qui apparaissaient plus puissants que leur dieu ? Et bien, je pense que la réponse, elle est donnée de manière très forte, très puissante, par quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, quelqu'un qui est sans doute un des plus grands réformateurs religieux de l'histoire humaine, mais qui a pris le nom du prophète Isaïe, qui a vécu réellement, mais environ un siècle plus tôt, à la fin de l'époque des rois. Et donc les exégètes l'appellent le second Isaïe. Hein, c'est donc la fin des livres d'Isaïe. Et là, bon, très clairement, bon, le second Isaïe formule très clairement la proclamation d'un monothéisme absolument exclusif. Je suis le premier, je suis le dernier, hors de moi, pas de Dieu. Je suis Hachem, il n'y a pas d'autre Dieu. Je fais naître la lumière et je crée les ténèbres. J'établis la paix et je crée le malheur. C'est moi, Hachem, qui fais tout cela. Donc un monothéisme radical et exclusif. Tellement radical qu'il va même jusqu'à faire du Dieu unique celui qui crée les ténèbres, qui crée le malheur. Pas le mal, sans doute. Hein. Mais bon, il faudrait voir le texte exactement, mais plutôt le malheur. Bon. Donc vous voyez, il y a un prophète inconnu, puisqu'il est, il n'est connu que par un pseudonyme. Bon. Qui énonce pour la première fois une croyance nouvelle, la croyance dans l'unicité absolue du Dieu d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'il énonce cette croyance-là ? À mon avis, c'est une réponse directe, et là on est au cœur du problème de la politique de l'exil, c'est une réponse directe à l'angoisse et au doute de ceux qui se disaient « notre Dieu est moins puissant que le Dieu de Babylone parce qu'il ne nous est pas venu en aide ». Bon, il y a une autre manière de répondre à cette angoisse en disant « si vous avez été puni, si votre royaume a été détruit, votre état a renversé, etc., c'est parce que vous avez péché, parce que vous avez fauté, donc votre Dieu vous a puni ». Mais bon, je laisse ce point-là de côté, c'est un point intéressant, mais je laisse de côté. Je pense que ce qui est fondamental, c'est cela, c'est qu'en fait, la supériorité des dieux de Babylone, le second Isaïe la nie radicalement. Il la nie radicalement, non pas en disant que c'est des dieux faibles, mais en disant qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas, et comme ils n'existent pas, ils sont incapables de sauver. Ils sont incapables de secourir leurs fidèles. Le saviez-vous, porteur d'idoles emboîtaillées, vous priez un Dieu qui ne sauve pas. Et là, bon, le second Isaïe annonce la chute prochaine de Babylone, que ces dieux n'arriveront pas à protéger. Bel s'incline, Bel c'est Baal, c'est le Seigneur, ça veut dire c'est un surnom de Marduk, le Dieu suprême de Babylone. Bel s'incline, Nebo s'effondre. Incapables de sauver ceux qui les portent, ils s'en vont captifs dans les ténèbres. Oui, en affirmant que Hachem est le Dieu unique, hein, ce prophète inconnu, le second Isaïe, nie non seulement la puissance, mais l'existence même des dieux de Babylone et des autres dieux étrangers. Et cette dénégation est la condition même de la survie d'Israël, la survie du peuple juif. En adoptant un monothéisme exclusif, radical, qui rejette tous les autres dieux dans le néant, le prophète fonde une stratégie de résistance. Et cette stratégie allait permettre aux déportés de préserver leur identité durant le siècle de leur exil, et elle permettrait aussi à leurs descendants de résister aux séductions de la culture grecque à l'époque des Maccabées et des autres cultures hégémoniques auxquelles ils sont tentés de s'assimiler. Donc moi je pense que ce qu'on pourrait appeler l'invention du monothéisme sous sa forme radicale, exclusive, elle s'insère dans cette politique de l'exil, dans cette politique de résistance. C'en est un des aspects. La construction du récit de Moïse et de l'Exode en est un autre aspect. Bon, j'en viens pour conclure la seconde novation, hein, qui est tout aussi remarquable. Enfin, ces deux novations-là, elles ont marqué l'histoire de l'Occident et de l'humanité de manière tout à fait marquante. Hein. C'est le legs du judaïsme à l'histoire de l'Occident. L'affirmation d'un monothéisme exclusif, d'un Dieu absolument unique, effaçant tous les autres lieux, les rejetant dans le néant. Et deuxièmement, bon, un point très intéressant, l'apparition de la figure du Messie, hein, du Sauveur comme Mashiach, comme Messie. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Ben, vous le savez tous, hein, c'est celui qui était oint, hein, celui qui a subi l'onction d'huile. Hein, et cette onction d'huile, bon, on traduit ça en grec, ça se dit en grec Christos. Hein, et donc, bon, les disciples de Jésus de Nazareth vont se définir eux-mêmes comme les messianiques. Chrétiens, ça veut dire ça. Je ne sais pas si beaucoup de chrétiens s'en rendent compte, mais bon, ils ne savent pas non plus que dans le nom de Jésus, il y a le nom de Hachem. Yahushua, Hachem est le sauveur, mais bon, laissons ça. Mais lorsqu'ils disent Jésus-Christ, le Christ, ils disent simplement le Messie. C'est une secte, une dissidence messianique de judaïsme. Bon. Eh bien, qu'est-ce que donc le Mashiach, ou Christos, hein, c'est celui qui était oint, hein, celui qui était, à qui on a donné l'onction d'huile. Qui est-ce qui était oint dans l'Antiquité du Proche-Orient? Eh bien, c'était les rois. C'était les rois. C'est le roi où on monte son sacre. Alors là encore, il faut sortir un peu de la Torah et ouvrir l'archive. Les historiens nous apprennent que ce rite était pratiqué par plusieurs peuples du Moyen-Orient. Et ils faisaient de leurs souverains les élus, c'est-à-dire aussi les fils ou les images de leur dieu suprême. Bon, le roi Sargon d'Akkad, un roi donc mésopotamien, est ainsi appelé loin au Yente, hein, de Anu, le dieu du ciel, le dieu suprême. Et bon, dans un autre texte, un dieu appelé Haddou, un dieu de la tempête, s'adresse au roi de la ville de Marie en lui disant « Je t'ai oint de l'huile de ma victoire et nul n'a pu tenir face à toi. » Or, ce rituel d'onction royale se retrouve aussi en Égypte. Hein, le pharaon, lors de son couronnement, était enduit d'huile et d'onguent afin, disait texte, que le dieu Horus enveloppe ses chairs dans la plénitude de la vie et le rend invulnérable. Donc, l'onction est d'abord un rituel royal. Un rituel visant à consacrer le roi. Et d'ailleurs, il va réapparaître à partir du Xe siècle de notre ère, hein, comme le rituel de l'onction des rois d'Occident. Bon, tout récemment, à l'abbaye de Westminster, on a vu un roi, je pense que le roi Charles III d'Angleterre, a été oint, il était enduit de quelques gouttes d'huile, comme l'ont été le roi de France jusqu'à Charles X, 1824 quand même. Et cette onction d'huile faisait d'eux, comme on le disait au Moyen-Âge, des images du Christ, des rois messianiques, en leur donnant d'ailleurs un pouvoir tout à fait extraordinaire, le pouvoir de guérir la lèpre, de guérir des maladies de peau. Enfin, bon, ça, les historiens ont documenté ça, je laisse ça de côté. Donc, c'est un très vieux rite royal ayant pour but de consacrer, c'est-à-dire de sacraliser le roi. Et c'est précisément cela. Hein, et c'est précisément ce que va répéter le prophète Samuel lorsqu'il va oindre le premier roi d'Israël, Shaoul. Donc qu'est-ce que le Messie? Ben, c'est une figure royale. Hein, c'est une figure royale, bon, qui a tous les traits bon, du roi consacré. Et donc c'est un résidu ou un vestige de l'époque où la monarchie avait été restaurée et les rois étaient considérés comme les oints, hein, d'Elohim, les oints de Hachem, parce qu'ils avaient été enduits de l'huile sacrée. Mais en même temps, le Messie est aussi une figure du libérateur. C'est aussi une figure de celui qui va venir et qui va bon, ramener les exilés de Sion vers Sion. Et donc là, on retrouve l'autre aspect de la politique de l'exil, cette volonté qu'avaient les exilés de Babylone, hein, enfin, qu'avaient leurs dirigeants spirituels, par exemple ce prophète, le second Isaïe, hein, de leur donner de l'espérance en leur annonçant un nouvel exode qui les ramènerait vers Jérusalem. Qui est donc le Messie? Eh bien, c'est une figure du libérateur, de celui qui réalise l'exode. C'est donc une figure, c'est un double ou un duplicata, c'est une réplique de la figure historique, la figure ancienne de Moïse. Le Messie est un nouveau Moïse, qui doit accomplir à nouveau hein, l'œuvre libératrice qui était l'œuvre de Moïse dans le récit de Shemot. Simplement, très curieusement, dans son nom même, Mashiach, celui qui était enduit de l'huile sacrée, c'est-à-dire le grand prêtre ou le roi, ou le roi prêtre. Hein, la figure du Messie condense de manière très équivoque et très problématique la figure du libérateur, celui qui a arraché le peuple à l'esclavage du pharaon, à l'esclavage des rois, et la figure bon, du roi lui-même, la figure du roi consacré, et que son onction a sacralisé pour en faire le fils du Dieu. Donc c'est une figure équivoque, est très ambigu par son côté. Je dirais que le nom Messie est en quelque sorte un nom écran. Un nom écran de Moïse. C'est un nom qui se substitue, c'est un nom commun, qui se substitue à un nom propre. Au nom propre de Moïse le libérateur. En le mélangeant avec d'autres traits issus de l'époque des rois, issus de la figure du roi consacré, comme l'étaient les pharaons ou les rois d'Akkad. Alors, bon, il faut que je conclue là, mais on pourrait, si on rentrait de plus près dans le détail du texte du second Isaïe, on voit que ce Messie prend une figure tout à fait extraordinaire. Il prend la figure du serviteur souffrant, hein, de l'Aved Hachem. C'est-à-dire quelqu'un qui, bon, qui se sacrifie lui-même, qui se charge de tous les péchés, qui se charge de toutes les fautes et qui conduit à une mort infâme pour réparer les fautes du peuple. Et là, il y a une nouvelle construction théologique extrêmement audacieuse, hein, qui vise d'une certaine façon à rétablir ce que la Torah avait interdit, à savoir un sacrifice humain, sous la forme d'un auto-sacrifice. Hein, le Messie qui vient, sous la forme du serviteur souffrant, c'est quelqu'un qui s'offre en sacrifice pour sauver le peuple lui-même, hein, pour racheter le peuple et le sauver de son exil. Ça, c'est une invention tout à fait extraordinaire du second Isaïe, qui transforme la figure de Moïse pour en faire quelque chose de tout à fait différent, de très très curieux, d'un libérateur qui se sacrifie pour sauver son peuple. Dans Devarim, dans Deutéronome, il y a déjà quelques éléments qui vont un peu dans ce sens-là. Hein, notamment pour essayer d'expliquer pourquoi Moïse n'a pas pu rentrer en terre promise, hein, pourquoi il a dû mourir avant de rentrer en terre promise. Devarim suggère déjà qu'il s'était chargé de toutes les fautes du peuple et que c'est en raison des fautes du peuple que Hachem l'a puni. Alors, il pourrait donc une certaine interprétation de la figure de Moïse réapparaître dans cette construction extraordinaire du second Isaïe qui fait du Messie un Messie souffrant. Peut-être même un Messie lépreux. Bon, ça c'est une question qu'on pourra peut-être discuter, mais certains indices montrent que la maladie dont souffre le serviteur est peut-être la lèpre. Vous savez que Moïse a été lépreux aussi pendant quelques instants. Enfin, atteint d'une maladie appelée Sarahat, mais ça, on pourra en reparler. Donc là, bon, là, je voudrais rendre hommage à ce prophète inconnu, ce prophète anonyme appelé le second Isaïe, qui a à la fois inventé un monothéisme radical, un monothéisme exclusif, en l'imposant donc au peuple d'Israël, au peuple juif, qui a inventé ou aidé à reconstruire l'histoire de l'Exode, l'histoire donc de la révolution israélite en la transformant en ce que le texte nous dit, un exode hors d'Égypte, et qui a aussi inventé la figure réinventé la figure du Messie, en faisant du Messie un Messie souffrant, dont le sacrifice permet d'expier les fautes du peuple, et donc de le délivrer. Et ça, il y a des gens qui s'en souviendront 5 siècles plus tard, hein, les premiers disciples de Jésus de Nazareth, pour essayer d'expliquer comment celui qui se présentait comme un Messie, celui qui était pour eux un Messie libérateur, Machiach, Christos, hein, soit mort sur la croix comme un esclave ou un traître. Et donc, effectivement, Paul de Tarse, le fondateur du christianisme, qui avait une bonne connaissance de la Torah, sans aucun doute, a été puisé dans ces textes-là, notamment dans la prophétie du second Isaïe, cette figure du serviteur souffrant, pour l'appliquer à la crucifixion, à la passion de Jésus de Nazareth. Et donc, bon, là, la figure du Messie prend une nouvelle forme, il devient le Fils de Dieu, mort sur la croix et ressuscité, etc., etc. Et ça engendre une nouvelle religion, un nouveau dispositif de croyance. Bref, tout cela, le monothéisme radical, l'histoire de l'Exode et la figure du Messie, notamment sous la forme du Messie souffrant, bah, seraient différentes illustrations de cette politique de résistance, de cette politique de l'exil, hein, qui serait apparue bon, au moment de l'Exode à Babylone, de l'exil à Babylone, et qui aurait été bon, exprimée sous une forme très forte, une forme extraordinaire, hein. Il faut lire les textes, ils ont une puissance extraordinaire, par celui qu'on appelle le second Isaïe. Autant de versions tout à fait étonnantes, tout à fait surprenantes, hein, de cette politique de l'exil qui ont marqué les 2 millénaires qui ont suivi. Voilà, j'étais un peu long, mais je vous remercie de votre attention. Merci.